qu'on a entendu de Donald Trump, une alliance militaire ne peut fonctionner au gré de l'humeur du président des États-Unis, a-t-il ajouté.
Alors, il avait déjà déclaré lorsqu'il était président que l'OTAN était obsolète, c'était ses mots. Aujourd'hui, il y a un vrai problème d'engagement, non pas nécessairement que les États-Unis puissent quitter l'OTAN. D'ailleurs, il y a une loi qui a été votée récemment, fin décembre, qui l'empêche. Mais sauf qu'en raison du mode de fonctionnement de l'OTAN, qui est quand même la règle de l'unanimité lors du Conseil de l'Organisation Atlantique, si un État, admettons par exemple l'Estonie, attaquée, demande d'invoquer l'article 5, hein, qui est l'article sur les garanties mutuelles.
Attaqué par la Russie,
voilà, par la Russie, voilà. Et que vous avez les États-Unis qui dit non, pas question, que peuvent faire les autres? Il n'y a pas, encore une fois, d'application automatique de cet article 5. Le deuxième élément, c'est que même si les États-Unis restent dans l'OTAN, mais qu'ils décident, et admettant même qu'ils acceptent l'application de cet article 5, de ne pas envoyer leurs forces, parce que tout simplement, tous les États ne sont pas tenus d'envoyer leurs forces. Que se passe-t-il concrètement en termes de défense concrète d'un pays attaqué?
Je pense qu'il faut prendre Trump tout à fait au sérieux, comme on vient de le dire. Trump est un souverainiste, c'est un nationaliste qui a une idée assez claire des relations internationales, qui a une vision du monde qui est structurée, c'est une vision du monde d'État-nation souverain régi par des rapports de force entre grandes puissances, n'est-ce pas? Et cette vision du monde, il l'a depuis très longtemps. Et sa vision de l'Europe, il a construit cette vision depuis très longtemps. Si je puis me permettre de vous lire un extrait d'une interview qu'il a donnée en 1990 pour vous montrer la continuité de sa pensée, la cohérence de sa pensée. Interview donnée en 1990 à Playboy Magazine.
Alors,
je pense que il dit beaucoup de choses dans cette interview, entre autres, mais ici il dit « Je pense que notre pays a besoin de plus d'ego parce qu'il se fait tellement arnaquer par nos soi-disant alliés, c'est-à-dire le Japon, l'Allemagne de l'Ouest, l'Arabie Saoudite, la Corée du Sud, etc. Ils ont littéralement évincé notre pays parce qu'ils dirigent la plus grande machine Afrique jamais assemblée et qu'ils sont assis sur notre dos. Nous, les Américains, sommes la risée du monde entier parce que nous perdons 150 milliards de dollars année après année parce que nous défendons des nations riches pour rien, des nations qui seraient rayées de la surface de la Terre en un quart d'heure si nous n'étions pas là. »
Il
continue, il y a bien d'autres déclarations qui suivent dans cette interview.
Donc, il y a une cohérence dans sa pensée
depuis très longtemps sur cette question. Ceci ne veut pas dire que les États-Unis vont quitter l'OTAN. Ceci ne veut pas dire que les États-Unis ne rentreront pas en guerre. Cela veut dire que pour lui, la relation transatlantique doit être renégociée.
Effectivement, on a été à 2% un an plus tôt, en 2022. Maintenant, on est à 1,9. Mais je crois que l'important n'est pas là, parce que ces sommes, ce sont des sommes globales qui ne veulent rien dire sur le fond, en fait. L'important, c'est que je crois que dans la pensée de Trump, et je parle sous votre contrôle, dans la pensée de Trump, il y a un mépris profond pour ces espèces d'États européens qui sont sans arrêt en train de se chamailler, incapables de s'entendre, incapables de construire une force. Parce que l'homme Trump, effectivement, ne considère en quelque sorte que l'État fort. Et l'Europe, qu'est-ce que c'est? C'est un État éparpillé, c'est une espèce d'un conglomérat qui n'a aucune valeur à ses yeux. Et c'est en cela qu'il rejoint la pensée poutinienne, puisque chez Poutine, il y a la volonté de détruire cette Europe qu'il lui insupporte, puisqu'effectivement, elle s'est construite, elle a ramené en son sein certains pays qui dépendaient effectivement de la mythologie poutinienne.
Alors, l'électorat trumpien et Trump lui-même, la question de la souveraineté d'un pays comme l'Ukraine, la question de la protection de la démocratie, la question tout simplement des massacres, des crimes contre l'humanité, des crimes de génocide commis par Poutine en Ukraine, il n'en a strictement rien à faire. Et que Trump lui-même, déjà il y a quelque temps, avait dit « moi, de toute manière, ce conflit-là, en un jour, je le règle. Oui. Je le règle comment ? Je le règle, soi-disant, par des négociations, donc, qui permettent de sacrifier complètement l'Ukraine et de la rayer de la carte, ou en tout cas, d'annihiler sa souveraineté. »
Une fraction non négligeable du Parti républicain, près d'une majorité du parti dans les institutions américaines au sein du Congrès américain, et la quasi-totalité de sa base militante, sont favorables à un retrait des États-Unis par rapport à leurs engagements internationaux, pas seulement en Europe, mais par rapport aux institutions internationales, par rapport à leurs engagements en Asie-Pacifique, etc.
Donc au premier chef, Ukraine.
En premier chef, l'Ukraine, évidemment, mais il y a aussi... Trump ne veut pas que la Russie gagne en Ukraine. Il ne faut pas se méprendre là-dessus. Trump n'est pas un sous-fifre de Poutine, n'est-ce pas? Il se reconnaît dans les dirigeants autoritaires, qui ont une certaine force et qui manipulent la force. D'ailleurs, il l'a dit dans la même interview en 1990, il dit « Gorbatchev est très faible, regardez-le, il est en train de perdre, tandis que Deng Xiaoping, en Chine, a montré en 1989, lors de Tiananmen, ce qu'il fallait faire. » Je pense que sous Trump, effectivement, il y aura une limite très nette au soutien apporté par les États-Unis à l'Ukraine et une négociation avec Poutine, sans doute, sur les frontières de l'Ukraine à venir.
Patricia Lémonier.
Je pense qu'il y a une reconnaissance mutuelle, j'ai envie de dire, de la force que représente l'autre. Et comme ce sont des relations diplomatiques internationales qui ne sont basées que sur la force pour ces deux hommes, effectivement, ils se reconnaissent comme l'interlocuteur, puisqu'ils travaillent dans le même champ que lui. Mais ce que j'ai envie de dire, c'est que par rapport aux États-Unis, cette idée qu'a très habilement joué Poutine sur « regardez, elle vous coûte cher,
cette
guerre
en
Ukraine, elle vous coûte très cher et vous êtes endetté jusqu'au cou », dit-il. Là, il ne parle pas seulement à l'électorat trumpiste. Il parle aussi à tout cet électorat qu'on trouve même chez les jeunes démocrates qui n'ont pas grand-chose à faire de cette guerre en Ukraine. Ils se sentent beaucoup plus concernés par Gaza, par exemple, qui les interpelle parce que c'est un côté humanitaire, etc. Et ces dépenses lointaines, beaucoup d'Américains sont fatigués de ces dépenses lointaines. Ouais. Il n'y a pas que l'électorat trumpiste.
Nicolas Tenzer.
Il y a deux choses. D'abord, il y a un premier élément, c'est qu'il faut voir, je rebondis juste une seconde sur ce que vous avez dit, à mon avis très justement, c'est qu'il y a une grande partie de l'électorat démocrate qui est totalement sur cette tendance-là. Même d'ailleurs, Biden, quand il avait décidé de retirer ses troupes d'Afghanistan le 31 août 2021, voilà, c'est la fin des guerres éternelles, etc. Tout ce discours-là, on le retrouve avec une tendance au pacifisme, un refus d'intervention dans cette partie-là. Sur la question de la Chine, il faut bien voir que le signal qui serait envoyé s'il n'y avait pas un soutien jusqu'au bout à l'Ukraine, et ça vaut aussi pour partie pour l'administration Biden, serait que finalement, des pays comme le Japon, des pays comme Taïwan, des pays comme la Corée du Sud, comme l'Australie, voire les Philippines, se sentiraient complètement abandonnés. Moi, je me rappelle déjà des discussions en 2013 ou 2014 au Japon, en Corée du Sud, où j'avais des responsables de ces pays qui me disaient « Est-ce qu'on peut véritablement, à long terme, faire confiance aux garanties de sécurité américaines ?» Et il faut voir que là, si on a Trump qui dit « On abandonne concrètement l'Ukraine », eh bien, je pense que ces pays-là ne se sentiraient pas du tout défendus par rapport à la Chine. Et avec la Chine, ils chercheraient plutôt, vous savez, une sorte de politique transactionnelle, puisque c'est son grand terme, une politique transactionnelle qui ne serait pas nécessairement une politique de soutien a priori continue à Taïwan.
C'est-à-dire que ça, c'est la base de Trump. La base militante de Trump partage l'idée de Trump sur les hommes forts, sur les figures autoritaires.
Le virilisme.
Oui, voilà. Ça veut dire que 75%
de la population... L'extrême droite chez nous aussi.
Oui, l'extrême droite en Europe aussi, en Europe dans son ensemble d'ailleurs. Ça veut dire que 75% de la population ne l'a pas, n'est-ce pas, à l'envers. Non, l'implication de tout ce que nous venons de dire, c'est une remilitarisation des relations internationales. Parce que c'est vrai, c'est tout à fait vrai que toute une série d'alliés des États-Unis, que ce soit le Japon, Taïwan, l'Europe, etc., ne peuvent plus savoir à l'avance qu'il y a une garantie qui sera sûre en cas de conflit entre grandes puissances. La question de la nucléarisation du Japon va se poser, n'est-ce pas, si jamais cette politique est poussée à bout. La question de la nucléarisation en Europe, et pas seulement la France est déjà nucléaire, mais la question se reposera en Allemagne. Ce sera très, très difficile à faire, mais elle va se reposer. Au Moyen-Orient, la même chose. On va vers, en tout cas, on allait même avant Trump, vers une remilitarisation des relations internationales dans des luttes entre grandes puissances. Et là, les dangers s'accumulent.
Patricia.
Déjà en Europe, aujourd'hui, avec la perspective des élections européennes, les usines à troll fonctionnent au maximum. Mais On est dans un monde que Trump manipule, il est dans un monde parallèle, il est dans une autre vérité, j'ai envie de dire. Et il colle à son époque. Parce que ce que les jeunes, aujourd'hui, sont sur les réseaux sociaux, tout le monde est sur les réseaux sociaux. Et donc, à l'inverse de Biden, qui incarne une espèce de sagesse presque rétrograde, j'ai envie de dire, Trump est totalement dans son époque. C'est un homme du XXe siècle. Biden est un...
21e.
Et Biden est un homme du XXe siècle.
De la guerre froide, quelque part. Biden est encore celui de la guerre froide.
C'est celui des relations internationales, comme on nous les a...
multilatérales.
Où on avait des relations, quand même, selon des codes. Donald Trump, lui, il est totalement imprévisible. Et le gros problème qu'il pose des États-Unis, je crois, aujourd'hui, c'est ce côté imprédictible. Parce que regardez les méfaits de la non-intervention des Américains quand des puits saoudiens ont été bombardés par des milices proches de l'Iran. L'Amérique de Trump n'a pas soutenu, n'est pas bombardé immédiatement ses alliés. Résultat, qu'a fait l'Arabie saoudite ? Eh bien, elle a opté pour un autre monde, c'est-à-dire ce qu'on appelle la diplomatie à la carte. Et je crois que l'arrivée de Trump peut complètement nous paradoxalement, alors que lui ne croit qu'à la confrontation entre hommes puissants, eh bien, favoriser l'éclatement, finalement, du monde entre un monde qui ne serait même plus multipolaire, qui serait bien au-delà du multipolaire.
Alors... Le rapport du procureur spécial... que le procureur spécial lui-même a été nommé par un démocrate comme procureur spécial, mais à l'origine a été nommé par Donald Trump comme procureur. Donc c'est très politique, c'est une action très politique d'insérer cette question de la mémoire dans son rapport. Joe Biden est un homme âgé et c'est un homme qui ne dégage pas beaucoup d'énergie comme on le voit, mais c'est un homme qui a géré les fortunes des États-Unis plutôt bien au cours des 4 dernières années au plan économique, etc. Il a un plan de réindustrialisation qui marche. Sa politique en relations internationales a des résultats plus mitigés, mais il y a quand même une action internationale cohérente. Donc, le problème aujourd'hui, c'est que Donald Trump, qui a 77 ans et qui lui aussi confond les noms constamment, n'est-ce pas, très récemment entre l'ex-président de la Chambre des représentants et Nikki Haley, c'est que Joe Biden dégage quand même un sentiment de fatigue. Disons ça comme ça, de fatigue et de difficulté.
Au moins.
Oui, au moins. De fatigue et de difficulté, effectivement, à s'exprimer en public. Il faut savoir qu'il a eu des problèmes d'élocution depuis qu'il est gosse. Tandis que Trump, qui a 77 ans, lui, il dégage une énergie farouche négative. Oui, et cette énergie farouche et le contraste entre les deux est assez net. Et donc, le résultat aujourd'hui, c'est que Biden semble affaibli. Mais nous ne savons pas aujourd'hui, la campagne n'est pas encore véritablement commencée. Lorsque la campagne sera en plein, on verra ce qui se passera entre ces deux.
Juste avant de vous laisser...
Alors, pour l'instant... S'il y en a un, il y a des réflexions, je pense, qui se passent. Mais il faut voir que les démocrates pensaient il y a un an encore que leur meilleure chance de l'emporter sur Trump était Biden. Donc ils avaient fait ce choix, le parti avait fait ce choix, parce qu'effectivement, il rassemble, c'est l'homme rassembleur, en fait, des deux tendances. Aujourd'hui, il y a une vraie inquiétude à l'intérieur du parti. Et cette inquiétude n'est pas que par ces erreurs de langage dont vous parlez, qui sont effectivement anciennes chez l'homme. C'est sa démarche. C'est sa femme qui vient le chercher à côté de l'estrade pour lui éviter de tomber.
Un homme dépendant, quoi.
Ça va bien au-delà des mots.
Sur ce plan-là, il y a deux choses. Premièrement, oui, et c'est pas en novembre qu'il faut le faire, c'est maintenant. Et ça aurait déjà dû être fait depuis assez longtemps. On se rappelle aussi Emmanuel Macron, le 13 juin 2022, à Satory, qui parlait de l'économie de guerre pour la France, mais aussi pour les autres pays de l'Union européenne. Il fallait absolument le faire, et il faut le faire. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il faut évidemment que sur le plan conventionnel, pousser les dépenses jusqu'au bout. Il faut vraiment transformer complètement notre appareil de défense. C'est une nécessité. Et c'est une nécessité aussi, ne l'oublions pas, si Biden est réélu. Parce que rappelez-vous quand même, 2013, la Syrie, à l'époque, Obama qui refuse d'intervenir. À l'époque, Hollande était prêt à intervenir. S'il avait eu le soutien de l'Europe et la capacité d'intervenir, voilà. Et je pense que c'est ça qu'il faut faire. Dernier point très rapidement, sur le nucléaire quand même, là, on n'est pas sorti de l'auberge parce qu'il faudrait revoir complètement pour les deux pays européens, au sens large, qui disposent de l'arme atomique, Royaume-Uni et France, complètement notre doctrine de dissuasion. S'il n'y avait plus de parapluie nucléaire américain,
eh ben, y a
là, c'est une autre affaire.